appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bon début de semaine en compagnie des Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Dans une semaine, on célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire. Ça sera le 19 août prochain. En RDC, des milliers de personnes, principalement dans les provinces de l'est du pays, bénéficient du travail des humanitaires. Ce travail se déroule souvent dans des conditions sécuritaires difficiles. Que pensez-vous du travail des humanitaires dans votre milieu et que proposez-vous pour faciliter leur travail? Nous en parlons dans ce studio avec Yvon et Doumou, chargés de communication au bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad. Titi Mputu, Paul Badanyama sont à la réalisation de cette émission présentée par Pierrot et Lameji sous la supervision de Nicole Ngakafi. Des auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Lameji.
Nous parlons du travail des humanitaires dans votre milieu. Comme je l'ai dit, des milliers de personnes sont assistées par les humanitaires en RDC et souvent ce travail se déroule dans des conditions sécuritaires difficiles. Que pensez-vous, vous, auditeurs des Radio Capi, du travail des humanitaires dans votre milieu et surtout, quelles sont vos propositions pour faciliter leur travail? Yvon et Doumou, vous êtes avec nous dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut se faire une idée aujourd'hui de personnes qui bénéficient de l'aide humanitaire en RDC, en termes bien sûr de l'aide en urgence dans les régions principalement touchées par le cas d'insécurité?
Mais merci pour l'invitation à Radio Okapi. Alors aujourd'hui, l'Est du Congo est principalement, comme vous le savez, la zone où nous opérons, nous en tant que famille humanitaire, que ce soit les agences des Nations Unies ou que ce soit des ONG nationales et internationales. Mm-hmm. L'Est du Congo est notre principal théâtre d'action. Et aujourd'hui, l'aide que nous fournissons touche en fait plusieurs millions de personnes et dans divers domaines. Mm-hmm. Ça peut être en termes de sécurité alimentaire, en termes d'eau, en termes de santé, en termes de protection physique, en termes d'éducation. Et évidemment, chacune de ces activités que je viens de citer sont menées par divers partenaires qui sont implantés au Congo depuis de nombreuses années et qui font un travail qui est à saluer.
Mais quand on regarde l'intervention humanitaire, ça veut dire quoi? C'est seulement les cas d'urgence quand il y a par exemple des catastrophes naturelles, quand il y a par exemple des guerres, ou il y a aussi l'intervention humanitaire qui s'inscrit dans la permanence?
Alors ça, c'est une très bonne question qui a d'ailleurs fait débat depuis quelques années ici en RDC. Alors traditionnellement, l'aide humanitaire, c'est une aide d'urgence. Mm-hmm. C'est une aide qui vient secourir des personnes, des communautés, une ville, une région qui a été frappée, comme vous le dites si bien, soit par une catastrophe naturelle, inondation, tremblement de terre, glissement de terrain, ou par des conséquences nées de conflits armés, comme ce qui est le cas ici en RDC. Et donc c'est une aide qui est censée être limitée dans la durée, et qui est censée juste pouvoir permettre aux gens de continuer à rester en vie le temps que ils se reprennent en charge et que l'État reprenne ses activités. Mais effectivement, aujourd'hui, le débat se pose principalement, notamment ici au Congo et dans d'autres pays, entre le lien ou le pont qui existe entre l'aide d'urgence l'aide humanitaire qui est d'urgence et qui est de courte durée, et une aide qui est beaucoup plus longue. Dans ce cas, on ne parle plus évidemment de l'aide d'urgence, on parle plutôt d'une aide au recouvrement, au relèvement précoce en fait. Mmh, mmh.
Et principalement, qu'est-ce fait au Tchad? Parce qu'on parle du bureau de la coordination des affaires humanitaires, ça veut dire quoi? C'est au Tchad qui coordonne les activités certain nombre de partenaires, c'est Ocha lui-même qui est sur terrain. Comment est structuré le travail d'Ocha un peu en bref?
Alors Ocha en fait c'est un démembrement du bureau du secrétaire général des Nations Unies. En grosso modo, nous fonctionnons comme le conseiller du secrétaire général des Nations Unies sur les questions humanitaires dans un pays donné. Alors Ocha ne coordonne pas en tant que tel aucune agence ni aucune ONG, mais nous facilitons le travail. Nous leur apportons un service en termes d'information, en termes de gestion d'information, en termes de cartographie, en termes de financement. Hein, on peut aider certaines agences et ONG à trouver des financements. Elles sont elles aussi évidemment libres totalement de trouver leur propre financement. Donc nous avons juste un rôle de catalyseur, mais nous n'avons pas une supervision en tant que telle de telle ou telle agence ou ONG.
Et les relations entre OTIA et les institutions du pays où on opère?
Alors, c'est des relations qui sont très bonnes et évidemment, comme vous le savez, la présence d'une agence comme OTIA ou d'ailleurs de toutes les agences humanitaires qui opèrent dans le pays sont à l'invitation des autorités congolaises. Donc, nous ne serons pas là si l'autorité nous avait pas accordé ce crédit-là. Mais je dois dire que nous avons de très bonnes relations avec le ministère des Affaires sociales et des actions humanitaires ainsi qu'avec aussi d'autres départements de l'État congolais. C'est des échanges, c'est des partages, c'est des idées que nous partageons, des approches, afin de pouvoir résoudre la crise humanitaire qui sévit au Congo depuis de nombreuses années.
Et nous avons d'ailleurs évoqué à l'introduction de cette émission le problème des conditions dans lesquelles les acteurs humanitaires travaillent. Avant d'écouter les auditeurs, quelles sont les difficultés majeures auxquelles les humanitaires font face quand ils sont sur terrain, dans un contexte comme celui de la RDC, d'une manière aussi brève?
Alors, les humanitaires font face en fait à deux contraintes principales. La première est une contrainte d'ordre sécuritaire. L'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC est un frein au bon déroulement de notre travail. Alors, ça veut dire que non seulement, évidemment, les personnes sont en mise en danger, mais nous aussi, en tant que travailleurs humanitaires, nous sommes mis en danger. Les affrontements peuvent avoir un impact sur le bon déroulement. L'autre contrainte, qui est plutôt une contrainte d'ordre logistique, c'est l'accès. L'accès en termes de les difficultés, le manque de routes qu'il y a dans l'est du pays, les difficultés à accéder des familles, des communautés qui sont dans des zones parfois reculées où il n'y a pas de route bitumée. Il faut souvent prendre des pirogues, passer des ponts en bois, ce genre de choses.
Voilà, on va revenir à vous, le temps d'écouter aussi les auditeurs des Radio Capi. Franck nous appelle de Vienne, Jean-Pierre est ici à Kinshasa et Omar à Kinshasa. Qu'est-ce qui doit être fait pour faciliter aux humanitaires de faire leur travail et aussi votre appréciation de ce travail des humanitaires? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes avec nous de Vienne en Autriche. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité qui est là au studio. Bonjour à nos compatriotes congolais qui nous suivent.
On vous écoute. Vous avez suivi comment notre invité a pu décrire la situation par rapport au travail que font les humanitaires en RDC, les cas particuliers du pays, parce que vous êtes à l'extérieur. Qu'est-ce qui doit être fait en principe pour faciliter le travail des humanitaires sur terrain?
Oui, merci beaucoup pour le choix de ce sujet. Nous devons d'abord reconnaître que les objectifs de ces aides humanitaires sont clairs dès le départ. C'est une manière d'alléger la misère de certains peuples qui se trouvent dans des situations assez difficiles à vivre. Mais d'autre part, il y a aussi lieu de prévenir qu'aucune nation, aucun pays ne peut se développer seulement à base de ces aides humanitaires. Donc, je dirais par là que les aides humanitaires peuvent toujours faciliter quelque chose, mais ce n'est pas la clé définitive du développement. Chez nous, ça pose autant de problèmes parce qu'il y a encore l'insécurité qui persiste dans certains coins. Et quand il y a l'insécurité persistante dans certains coins, dans certains territoires, l'efficacité de ces aides devient de plus en plus presque invisible. Donc, ils tentent de faire quelque chose, la bonne volonté est là, mais la misère, la proportion de la misère est tellement profonde que tout ce qu'ils font là n'est plus perceptible.
Mm-hmm.
Puis, les gens, je crois que ces assistés, ils aspirent d'abord à la paix. Ils aspirent d'abord à la paix parce qu'on se sera de le dire. Le plus grand cadeau qu'on pourrait faire à ces gens, c'est d'abord de leur permettre de vivre en paix. Qu'on leur donne le nécessaire, la paix, comme ça, chacun peut vaquer à ses occupations. Parce que ça ne sert pas de créer un climat d'insécurité, après on vient assister. Donc nous demandons aussi à tous ces organismes d'aide humanitaire de militer aussi pour le retour de la paix. Parce que sans paix, sans retour à la paix durable, c'est difficile à décrire. Mais on est quand même reconnaissant par rapport aux efforts investis, par rapport à tous les sacrifices. Parce que c'est pas non plus facile d'aller travailler dans un coin où il y a toujours des guerres récurrentes, il y a des rébellions, il y a l'insécurité. Donc, il faut peut-être qu'on travaille de manière coordonnée, gouvernement, tous ces gens, tous les Congolais de bonne volonté. Donc, on ne doit pas s'arrêter seulement à nous contenter d'une intervention spontanée venant de tel pays, mais les Congolais, nos compatriotes de l'Est, aspirent d'abord à la paix. Nous, Congolais, nous aspirons d'abord à la paix. Donc, on peut te donner autant de millions, mais tant que tu n'es pas en paix, M. Pierrot, donc ça n'aura pas d'effet.
Voilà, merci.
Ça peut être notre prière et notre vœu. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Franck. Vous souhaitez qu'au-delà du fait qu'on intervient pour aider ceux qui sont en difficulté, il serait mieux aussi de militer pour le retour de la paix. Et là, vous avez souhaité que les agences humanitaires aussi puissent militer pour le retour de la paix. Nous pourrions voir avec notre invité dans quel sens les agences humanitaires peuvent aussi contribuer au retour de la paix. Merci beaucoup, Franck, nous retournons au pays, à Kinshasa. Jean-Pierre, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour, Biro Lemenji.
Vous avez suivi notre invité. Que pensez-vous du travail des humanitaires ici et ce qu'il faut faire pour faciliter leur travail?
Ah oui, je voudrais avant toute chose vous présenter mes condoléances parce que c'est la dépit de la disparition de Badala Chabani qui m'envoie encore et apparaît encore sur la radio Kapi.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Ah oui. Moi, je voudrais abonder dans le même sens que mon précédent. On a vu à l'Équateur le venant de la République centrafricaine pour les aides humanitaires que nous sommes en train de débattre. Ils ont même brûlé leurs abris. Pourquoi? Ils n'avaient pas réussi leurs aides humanitaires. Mais l'aide humanitaire, c'est quelque chose que nous recevons de la volonté de celui qui nous apporte cela. On ne doit pas toujours se contenter de l'aide humanitaire. Pourquoi? On crée un climat de guerre et puis revenir en aide à ce même gens-là. Pourquoi ce genre de choses ne peut pas nous enchanter? Pourquoi, Pierrot et la Mesure, pouvez-vous imaginer que à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des guerres récurrentes qui ne cessent pas et on vient toujours avec des aides humanitaires. Et ce sont toujours nos propres fonds qui nous reviennent encore en aide. Et c'est ça ma contribution, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je retiens de votre intervention la problématique de la relation entre les humanitaires et les bénéficiaires. Vous avez évoqué la situation des réfugiés centrafricains dans la province de l'Équateur qui étaient mécontents de la nourriture qui leur a été présentée et c'est ça. Notre invité pourra nous expliquer la relation entre les bénéficiaires de l'aide ainsi que les acteurs humanitaires. Et puis, vous souhaitez aussi qu'on puisse plus militer pour mettre fin à la guerre. Et là, vous avez dit que ce sont nos propres fonds qui nous reviennent sous forme d'une aide. Ça va permettre à Yvon Edmou de nous dire quelle est la part du pays qui reçoit l'aide. Est-ce que ces pays contribuent? Est-ce qu'une aide est remboursable? Voilà, on pourra répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup de cette proposition. Nous avons Omar qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Monsieur Lamégie, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup Monsieur Pierrot, je suis très content de ce sujet. Comme vous le savez, la vie de l'homme est inhérente à beaucoup de dégâts. Tels sont les cas de la guerre, des calamités qui peuvent entraîner des conséquences graves. Aujourd'hui nous parlons de l'aide humanitaire. et qui sont les bénéficiaires de ces aides, mouvant-là les déplacés, les réfugiés, ainsi que les victimes de guerre ou des calamités naturelles. Monsieur Pirot, la convention, il existe des conventions, des traités, même des lois internes qui protègent ce genre de personnes. L'aide humanitaire n'est pas une faveur que l'État donne à une victime de guerre ou des calamités, c'est son droit. Prends le cas de la convention du 28 juillet 51 qui protège les réfugiés. Je prends également le cas de la charte de l'ONU, la charte de l'Union africaine, pour ne citer que cela. Je voudrais que tout le monde sache, lorsque l'État apporte une aide humanitaire ou lorsque les ONG les offrent, ce n'est pas une faveur qu'on doit donner, parce que les conventions du monde obligent à tout État de le faire. Mais malheureusement, ce que nous remarquons, il y a toujours des plaintes. Les personnes qui sont censées être aidées se plaignent toujours. Parfois, les aides viennent en retard, parfois, elles n'arrivent pas, manque de paix, et cela entraîne des conséquences très graves. À mon avis, quelles sont les solutions qu'on pourrait faire pour y arriver? Maintenant, c'est là. Je voudrais aussi signaler quelques faits que nous remarquons aujourd'hui. Monsieur Pirot, une ONG n'est pas une chose pour se faire l'argent, c'est une organisation de bienfaisance. On ne peut pas faire une ONG si on n'a pas de moyens. Beaucoup des humanitaires aujourd'hui, surtout les ONG des droits privés, profitent des souffrances déjà pour se faire l'argent. C'est aussi l'une des causes qui fait que l'aide humanitaire ne vient pas. Le bailleur fonds déplace l'argent, mais arrivé à son tour, il bouffe et donne des choses qui ne viennent pas. Première solution que je peux proposer. Nous avons remarqué, par exemple, en RDC, la plus grande cause des problèmes humanitaires, c'est la guerre. Il faudrait que l'État continue ses démarches pour pacifier, car une nation pacifiée n'a pas de tels problèmes. Il n'y aura jamais de déplacés, de réfugiés, ni encore des calamités si l'État prend. Voilà pourquoi je demanderai à l'État d'avoir une politique préventive, d'abord du point de vue pacifique et du point de vue humanitaire. Nous avons toujours remarqué les urgences. Un État sérieux, M. Pirot, n'est pas un État d'urgence, c'est un État préventif. Voilà pourquoi on dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Que l'État, qui a déjà un fonds humanitaire, puisse l'alimenter tout le temps. Qu'on ne puisse pas être surpris lorsque des cas arrivent. Qu'on puisse déjà les prévoir pour éviter ce qu'on a toujours vécu. De deux, les ONG des droits humanitaires qui œuvrent doivent être conscientes et sérieuses. Comprendre qu'une ONG est une association de bienfaisance, ce n'est pas une chose pour se faire l'argent. On vous donne l'argent pour aider les gens et ne les mettez pas dans vos fosses. De trois, il faudra que ces problèmes deviennent régionaux. On n'aura plus de déplacés, on n'aura plus de réfugiés si la région, par exemple, des Grands Lacs se met au sérieux. Nous avons beaucoup d'accords de paix que nous avons signés, beaucoup d'accords de protection que nous avons signés, mais ce sont, ne sont pas respectés. La première personne qui doit s'occuper de ces cas, c'est d'abord l'État. Ce n'est pas une faveur, monsieur Lamège, c'est une obligation pour l'État de s'occuper de toute personne qui a un besoin d'humanité, même s'il est étranger. Et lorsque les États des Grands Lacs comprendront que c'est de leur obligation, d'abord de pacifier leur région, et si d'intervenir obligatoirement aux cas humanitaires, je pense qu'on aura évité ces problèmes. Voilà ma contribution, M. Pirot, et je vous remercie.
Merci beaucoup, Omar. C'est important, vos propositions, vous pensez qu'il y a un problème d'abord de conscientisation, que ce soit au niveau des États, au niveau des ONG qui s'occupent de l'action humanitaire. Les États doivent travailler pour le retour de la paix, surtout dans la région de Grand Lac. Ils doivent respecter les conventions qu'ils ont signées, et s'il arrive qu'on ait des bénéficiaires, des victimes, il faudrait qu'on puisse les assister. C'est leur droit, c'est pas une faveur. Mais vous avez aussi souhaité que les ONG ne puissent pas concevoir l'action humanitaire comme un canal par lequel on doit se faire de l'argent, mais ils doivent travailler, être conscientes et sérieuses dans la manière dont ils doivent assister les victimes des différentes, que ce soit la guerre, que ce soit les calamités naturelles. On va terminer cette première série des auditeurs avec Lambert, qui est à Kinshasa, ici dans la capitale. Bonjour Lambert.
Bonjour, monsieur le journaliste et à notre invité.
Nous dégageons ensemble les pistes et solutions pour faciliter aux humanitaires de faire leur travail. Quel est votre point de vue?
Oui, monsieur le journaliste, je tiens à remercier ces humanitaires-là, puisqu'ils sont en train vraiment de se démener pour soulager nos confrères, surtout qui sont à l'est du pays. Sinon, nous tenons à les remercier dans tout ce qu'ils sont en train de faire à notre faveur. Mais je déplore cette contrainte, ils ne sont pas vraiment dans de bonnes conditions, s'il faut le dire. Il y a de la guerre à l'est, alors pour qu'ils puissent travailler comme il faut, ils se posent un problème, puisqu'il y a certaines zones qui n'arrivent pas vraiment à accéder. Nous déplorons ça, et puis nous demandons même que l'État, lorsqu'on essaie les soins de consultation, il y a des pourparlers à Kampala, tout ça, qu'on essaie au moins d'interpeller un peu les acteurs pour qu'on les laisse libres, puisque les humanitaires sont les nôtres, qu'on laisse un peu libre d'avoir accès dans toutes les zones pour qu'ils puissent un peu mener les interventions qui assistent quand même nos confrères. Mais néanmoins, j'essaie au moins de dégager quelques aspects négatifs dans les mots opératoires. Apparemment, les humanitaires, ça ne signifie pas seulement qu'ils ont les obligations d'aider les gens qui sont dans des situations tellement graves ou dans un état de guerre. Ils sont aussi d'aider la population diminuée d'une manière générale. Mais ça pose un problème sur l'approche qu'ils utilisent. Ils utilisent beaucoup plus l'approche exogène. Ils imposent, au lieu d'abord de descendre sur le terrain, identifier les problèmes ensemble et sélectionner un problème prioritaire ensemble avec la population, ils imposent quand il y a un financement, ils arrivent, on dit c'est telle activité qu'on va mener dans telle zone de santé, dans tel territoire. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, par rapport à la balance, la prise en charge, les bailleurs des fonds financent les activités. Les bailleurs des fonds ne financent pas le personnel, mais financent les activités. Mais quand nous sommes rentrés à l'intérieur de leurs organisations, les fonctionnaires, les personnels touchent beaucoup. Il y a déjà que les activités. Et les personnels touchent, par exemple, un acteur, soit un agent d'une ONG internationale, touche par exemple 2000 dollars. Et puis sur le terrain, on n'arrive pas à sentir vraiment les effets de leur projet. Donc, il se pose un problème à ce niveau. Et en plus de ça, certaines ONG essaient au moins de considérer la RDC, surtout la Est, comme un endroit qu'on doit toujours brandir pour obtenir le financement et arriver à un moment donné, le fonds se laisse disparaître sans qu'il y ait vraiment des effets concrets sur le terrain. Donc, c'est ça un peu le grand problème. Hein, pour proposer. Moi, je vais un peu les aider et à leur donner un peu cette petite contribution, qu'ils essaient au moins, on va de mettre en place un projet, soit une activité, qu'on utilise ça ensemble, puisqu'il ne suffit pas seulement d'aider ces gens-là, mais ils doivent aussi songer que non, après leur départ, que ce projet, que cette population essaie au moins de gérer vraiment les activités. C'est qu'on parle en termes de gestion de cycle de projet, la pérennisation des activités. Et en deuxième position, ils doivent un peu revoir que non, le financement, les fonds alloués dans leur gestion ainsi que dans leur coordination ne peuvent pas vraiment dépenser les frais qu'ils allouent dans les activités, puisque ça, ils donnent beaucoup d'avantages à la ressource humaine qu'aux activités. Mmh. Et en dernière position, ils doivent faire un effort de travailler en collaboration, puisqu'il y a certaines ONG qui essaient de salir d'autres humanitaires qui sont là en train d'aider la population congolaise. Ils doivent vraiment savoir que non, à l'RDC, il y a autant de humanitaires qui travaillent pour tel domaine et tel domaine, voir leurs objectifs, les budgets, les activités, et organiser un comité de suivi et évaluation. Puisque réellement, messieurs les journalistes, certains humanitaires ne font rien sur le terrain. Ne font rien, il y a seulement que des noms. C'est un peu ma contribution. Sinon, ils risquent de se retrouver dans une entité chaotique et gouvernable où tout le monde peut venir avec n'importe quelle ONG. Je suis humanitaire, à cause sur le terrain, on n'a rien. On ne voit rien.
Merci beaucoup. Merci, Lambert. Je retiens principalement dans votre intervention les soucis de voir les humanitaires définir les priorités avec la population locale. C'est que vous posez le problème des bénéficiaires dans la définition des priorités et des actions à mener. Mais vous souhaitez aussi qu'il y ait un équilibre entre le fonds qui sont alloués aux fonctions de l'agence aux rémunérations et les fonds qui sont destinés aux activités sur terrain. Vous souhaitez qu'il y ait aussi une collaboration entre les acteurs humanitaires parce qu'on voit les uns détruire les autres dans leur façon de communiquer. Merci beaucoup Lambert Bruce. Ismaël, gardez la ligne, nous allons revenir à vous. Je rappelle encore le numéro de contact 081-890-7315. Et notre émission se penche sur l'action humanitaire en RDC. Quelles sont les propositions pour faciliter aux humanitaires de faire leur travail?
Parole aux auditeurs.
Yvon et Doumou, vous avez suivi nos auditeurs. Partant de Franck, il a posé un problème de la contribution des humanitaires par rapport au retour de la paix. C'est une préoccupation. Il y a aussi Jean-Pierre de Kinshasa qui parle de mécontentement des bénéficiaires. Il a donné un exemple à l'Équateur avec les réfugiés centrafricains. Et là, ça pose le problème de la relation entre les bénéficiaires et les humanitaires. Il y a Omar qui est revenu sur la prévention, les rôles des États dans la prévention. prévention des conflits pour éviter qu'on puisse se retrouver avec des victimes sur les épaules, mais là aussi souhaiter qu'il y ait une conscience auprès des humanitaires, et ils ne voudraient pas que les humanitaires utilisent les victimes comme une source de financement. Et Lambert est revenu aussi, vous avez suivi, il a proposé qu'on puisse avoir associer les bénéficiaires dans la définition des priorités, mais aussi le problème de l'équilibre de fonds alloués par rapport à l'activité ainsi qu'au fonctionnement et la collaboration entre les différentes ONG. Mais dans le propos aussi de Lambert, il est revenu sur la neutralité, la façon comment dans des conditions comme cela, les ONG, les humanitaires peuvent être neutres quand ils sont obligés d'assister, et les victimes qui sont du côté par exemple du pouvoir, et ceux qui sont dans le camp par exemple de la rébellion. Voilà autant de préoccupations ramassées des auditeurs.
Alors, beaucoup de belles interventions des différents des personnes qui ont appelé. On va essayer de répondre dans le délai. Je vais peut-être commencer par Lambert et cette question de neutralité, comme je disais tout à l'heure, qui en fait, c'est un des principes humanitaires fondamentaux de l'action humanitaire. Il y en a quatre qui régissent en fait l'action humanitaire. On parle de l'humanisme. Humanisme en termes de alléger les souffrances des personnes, quelles que soient. Et en fait, dans ce cas, on parle que vous soyez un habitant, on donne un exemple, de Goma, au-delà de la ligne de front actuelle, si vous avez besoin d'aide humanitaire, vous devez être assisté. Si vous habitez du côté entre guillemets du côté de la ligne de front qui est contrôlée entre guillemets par la FRDC, vous devez être assisté. Donc ça c'est un des principes fondamentaux de l'action humanitaire. On parle aussi de neutralité. Les partis, les humanitaires ne doivent pas prendre parti pour un camp ou pour un autre. Voilà, nous sommes là pour apporter une assistance et on reste, j'allais dire, aveugle, invisible à la couleur ou l'orientation politique, religieuse, ethnique de telle ou telle personne. On parle aussi d'impartialité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aide doit se faire sur la base des besoins. Si la personne a besoin d'assistance, elle doit être aidée. Et on parle aussi d'indépendance opérationnelle, c'est-à-dire indépendant de toute pression extérieure, indépendant de toute... on ne reçoit pas d'ordre, en quelque sorte, pour parler de façon claire. Donc ça, c'est pour tout ce qui touche la question de comment est-ce que nous fonctionnons. Voici les principes qui nous régissent. Et effectivement... quand on parle de je vais prendre un des points qui a été abordé par Lambert quand il parle d'aider les populations. Alors je pense qu'il y a peut-être une petite confusion au niveau de Lambert parce que en termes d'urgence, lorsqu'il y a une catastrophe et que nous devons intervenir, l'aide n'est pas déployée sans savoir qu'est-ce qu'il faut envoyer. Il y a d'abord des évaluations qui sont faites. Il y a des missions qui vont sur le terrain, non seulement pour savoir exactement quel est le nombre de personnes à qui on doit apporter de l'aide, est-ce qu'on parle de 200 personnes ou de 500 personnes, mais aussi quel type d'aide ces personnes ont besoin. Est-ce de la nourriture? Est-ce des médicaments? Est-ce des abris? Est-ce de la couverture? Est-ce que voilà, il y a tout un tas de questions qui sont posées avant que l'aide ne soit déployée. Donc je vais
et c'est là où intervient effectivement les bénéficiaires dans la définition des priorités.
Alors quelque part oui, parce qu'effectivement on ne peut pas leur donner quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Donc les équipes descendent sur le terrain pour recueillir les faits. Qu'est-ce que ces personnes ont besoin? Et alors, il faut peut-être aussi nuancer. Si vous allez faire une intervention et que le bénéficiaire qui vient de perdre sa maison vous dit, écoutez, moi j'ai besoin d'une télévision, d'une radio, c'est peut-être pas à notre sens l'aide dont il a le plus besoin lorsqu'on sait qu'il a des enfants qui sont peut-être malades ou voilà. Donc quelque part, c'est il y a un équilibre qui doit être fait. Mm-hmm. Certes, la vie et les us et les des personnes touchées sont prises en compte, hein, mais nous aussi en tant que professionnels, on peut aussi le dire, qu'est-ce que nous avons à leur apporter comme aide. Sur la question, je vois qu'il y a deux ou trois intervenants qui sont venus sur la question de la paix. Mm-hmm. Je pense qu'il va sans le dire que la paix est importante. Et nous, en tant qu'humanitaire, c'est le message en filigrane que nous passons à travers aux autorités provinciales et centrales sur le besoin de ramener la paix en RDC pour que, comme Franck de Vienne a dit, pour que le Congo puisse se développer, puisque pour que les Congolais puissent amorcer, prendre eux-mêmes en charge. L'aide humanitaire n'est pas une réponse n'est pas la réponse au développement. L'aide humanitaire, c'est quelque chose de précis, de circonscrit dans le temps, mais ça ne va pas permettre à la RDC de se développer. Donc effectivement, le message de paix, il est incontournable, il est évident, et c'est ce que nous tous, côté humanitaire et côté population congolaise, je dirais, c'est ce à quoi nous travaillons tous.
Et il y a ceux qui sont revenus sur l'équilibre, la balance, comme ils ont dit, l'affectation des fonds, par exemple, par rapport aux activités, par rapport au fonctionnement, comment tout ça est-il équilibré?
Alors, je pense que c'est c'est une confusion, une méconnaissance du domaine qui fait cela, qui fait dire à certaines personnes qu'il y a eu une mauvaise allocation des fonds. Absolument pas. Vous demandez à n'importe quelle ONG nationale ou internationale ou à n'importe quelle agence des Nations Unies, les fonds qui sont alloués aux activités, à l'achat de médicaments, d'eau, de nourriture et aux opérations, représentent plus de 80% des budgets de chaque ONG. Tout ce qui est personnel et autres besoins, qui sont évidemment aussi nécessaires au travail, représente une petite partie. Je pense que c'est important de dire à la population que lorsque des donateurs nous donnent un budget, un financement, c'est très précis de qu'est-ce que nous devons faire avec.
Voilà, merci. Je pense qu'on a ramassé presque toutes les préoccupations des auditeurs, hein, à part peut-être la préoccupation de la conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui courent, qui profitent de la souffrance des autres pour penser que cela peut leur produire et procurer des moyens de survie en termes de maintenir une population dans une situation donnée pour profiter de ça et solliciter des bailleurs de fonds, par exemple de l'argent pour les assister? Voilà un peu ça, c'est un appel lancé par
presque oui, je pense que aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je dirais dans la 9 fois sur 10, nous avons des gens, comme encore il y a un des interlocuteurs qui l'a soulevé, nous avons des gens qui viennent de loin. Le travail humanitaire n'est pas un travail facile, les gens le font avec de bon cœur. Vous savez, travailler à Goma ou dans des contraintes périculées n'est pas forcément un luxe. Je pense qu'on a le Congo a des agences humanitaires qui sont professionnelles, il arrive parfois que peut-être il y a un cas où on a décelé peut-être une certaine malversation, cela ne doit pas entacher le travail qui est fait depuis de nombreuses années dans l'Est du Congo.
Voilà, merci beaucoup. 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct, donner votre point de vue par rapport au travail des humanitaires, mais aussi proposer des pistes et des solutions pour faciliter ce travail.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Nous avons Bruce qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Bruce.
Bonjour JR.
C'est Pierrot qui est en ligne. Pierrot, ouais. Oui, on vous écoute.
Bonjour Pierrot.
Bonjour, on vous écoute Bruce. C'est Bruce ou Maurice?
Moi je voudrais aller, c'est Maurice. C'est Maurice.
Voilà, ok, ça va, on vous écoute.
Oui, je voudrais aller dans le même sens que je crois le premier et le deuxième intervenant. Pour dire, je voudrais même me référer à la chanson d'un chanteur là, un reggaeman là, de ivoirien. Dans une de ses chansons qui disait que on attise le feu et on vient jouer aux pompiers. Nous devons d'abord nous attaquer aux causes, parce que nous ne voudrons pas que les droits humanitaires puissent exister à perpétuité, hein, surtout dans les contextes congolais ici. Vous voyez qu'il faut d'abord aller dans les causes. Même cette ONU a été créée juste pour réguler les relations entre les États, pour prévenir les conflits, pour imposer la paix. C'est-à-dire que l'ONU, au pouvoir qui lui a été assigné par les États, est capable de mettre fin aux guerres, surtout qui provoquent même, qui créent ces conditions qui appellent aujourd'hui à l'assistance humanitaire. Alors, vous allez comprendre que il y a une dame que je suivais, je crois, dans une des chaînes internationales qui disait que les droits humanitaires, c'est les cache-misère. Réellement, elle avait raison. Hein? On ne peut pas continuer à commémorer cette date ici, et prochainement, comme vous disiez, qu'on va commémorer les humanitaires. Nous voulons commémorer la fin de l'aide humanitaire, de l'assistance humanitaire, pendant que l'ONU est capable et sera capable de mettre fin à toutes les causes qui créent les situations déshumanitaires. Pour notre pays ici, nous n'avons pas toujours à attendre de l'aide plutôt des humanitaires internationaux. Nous avons vu au Sénégal la fois passée, avec l'arrivée de Macky Sall, qui a trouvé que le Sénégal était confronté aux problèmes sérieux des inondations. Mais il n'a pas pu, il n'a pas fait appel aux humanitaires internationaux, mais il s'était contenté des ressources propres du Sénégal, hein, jusqu'à aller même dissoudre les Sénats, qu'il a jugé que non, le Sénégal pouvait bien exister sans les Sénats. Il a dissous les Sénats pour affecter les budgets alloués au Sénat pour faire face aux conditions humanitaires provoquées par ces inondations. Alors, aujourd'hui chez nous, vous voyez que nous sommes un pays qui est devenu vraiment un pays à vocation humanitaire. Hein? Même les budgets assistés toujours par des humanitaires, donc des bailleurs de fonds. Même tout ce qu'il y a autour de ce pays. Donc nous ne savons pas, c'est devenu vraiment ce Congo ici, est devenu un sanctuaire des humanitaires. Pendant qu'ils causent, et même les gouvernants créent ces conditions de guerre, afin que les humanitaires arrivent, ils sont incapables d'apporter des solutions à ces problèmes qu'ils créent. Alors, nous voulons qu'on puisse réellement s'attaquer aux causes. Les causes, ce sont la mauvaise gouvernance. Les causes, c'est l'absence de la démocratie. Quand on mettra fin à ces fléaux, je pense qu'on ne va même pas parler des déplacés de guerre, on ne va pas parler des humanitaires, on ne va pas parler de la boulimie créée par exemple notre régime ici. Donc je pense que c'est dans ce sens que je voudrais d'abord recadrer, pour qu'on puisse d'abord parler des recherches de solutions aux causes qui provoquent ces conditions qui appellent aujourd'hui à l'assistance humanitaire.
Voilà. Merci beaucoup Maurice. Vous pensez que le travail doit être fait au niveau de la lutte contre les causes, hein, qui créent des guerres. Et là, vous avez épinglé deux mots. Vous avez parlé de la mauvaise gouvernance et l'absence de la démocratie. Il faut mettre fin à cela. Ça va permettre à ce que les gens vivent en paix. Et comme ça, on ne pourra plus parler des guerres et faire allusion aussi à l'action humanitaire. Merci beaucoup de cet appel de Kinshasa. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga, bonjour.
Bonjour, Thierry Lamechi, bonjour à tous les jeunes de la radio Capi.
Vous avez suivi notre ami Maurice de Kinshasa qui pense que le grand problème aujourd'hui, c'est de s'attaquer aux problèmes qui font qu'il y ait des guerres dans un pays. Cela veut dire qu'il faut améliorer la gouvernance, il faut renforcer la démocratie, et comme ça, on pourra éviter qu'on se retrouve dans une situation où il faut solliciter l'aide humanitaire. Quel est votre point de vue?
Mon point de vue est simple. Juste quand lui vient de terminer, j'ai compris qu'il avait aussi une idée très majeure. Ici, en République démocratique du Congo, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes et de difficultés. Et par définition des mots l'humanité, nous comprenons que c'est une société humaine, soit qu'ils sont en sécurité, soit ils ne sont pas en sécurité, soit ils sont soumis à une bonne condition, soit ils ne sont pas soumis à une bonne condition. Mais comme le thème est intitulé juste pour l'aide humanitaire, je vais demander d'abord une question, qui peut d'abord aider l'humanité. Et juste que nous sommes sous le règne du 4e République, c'est-à-dire nous sommes dirigés par le président de la République et la constitution sur la constitution du pays. C'est-à-dire la société doit être sécurisée en cas de problème. Et remarquons un peu, aujourd'hui nous avons le problème de près des enseignants. On fait partie aussi de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, ceux qui sont même là comme les syndicats, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Rien du tout. Et pourtant, nous pensons que chaque individu poursuit toujours un but et non pas la dissuasion des mesures. C'est ça le cas. Alors maintenant, ceux qui se dirigent, par exemple, ceux qui poursuivent des expatriés de guerre de l'Est, la SRS. Souvent, nous remarquons, ces derniers temps, j'ai entendu même, on a criblé même la voiture de la Monique avec les pierres. Nous-mêmes qui sommes sous l'emprise de la Monique, et nous commettons même des actes qui ne vont même pas. La question était c'est de savoir qu'est-ce qui cause tout ceci et comment on peut avoir une solution concrète à tout ce qui nous arrive et comment nous pouvons avoir aussi celui qui peut aussi nous aider favorablement. Mais la guerre n'est pas une solution au sud de la République. Voilà, même si tout ce qui incrimine seulement l'État, ce n'est pas un problème. Voyez aussi, la guerre aujourd'hui est comme les champignons qui poussent du jour au jour. C'est parce que nous avons besoin de pouvoir. Nous avons besoin de diriger de la manière dont nous ne serons même pas l'accès par lequel nous devons aussi diriger. Nous devons nous-mêmes d'abord chercher la paix avec nos confrères et nos amis. Parce que ce qui lutte à provoquer les guerres, ce ne sont pas les étrangers, pourtant ce sont les Congolais. Voilà, maintenant nous avons encore une difficulté des routes, des transports ainsi de suite. Qui peut encore aider l'humanité congolaise aujourd'hui à accéder soit au transport, soit à l'électricité, soit à l'eau potable. C'est tout à fait difficile. Sinon, nous plaidons à l'État, c'est qu'ici même, par exemple, avec les organisations non gouvernementales, parce que ce sont ceux qui aident souvent l'humanité en bonne et due forme. Soit par exemple des maladies, l'hygiène, de l'environnement, tout cela, nous avons vraiment besoin que les gouvernements signent aussi plus de contrats avec les expatriés pour que nous soyons vraiment aidés. Je dis vraiment merci beaucoup et ça fait un temps que je n'ai pas pu passer à la radio Capi.
Merci beaucoup Ismaël. Et d'ailleurs vous avez répondu vous-même à la question, vous aviez posé la question de savoir qui peut aider l'autre. Mais dans votre intervention vous êtes revenu sur la responsabilité de l'État, qui a l'État a la responsabilité d'améliorer les conditions de vie de sa population. Mais vous avez aussi évoqué le rôle des ONG dans ce travail. Mais je retiens quand même quelque chose d'important de ce que vous avez dit. Vous avez dit la guerre. Et c'est plus les gens qui ont besoin du pouvoir, mais qui utilisent n'importe quelle voie pour accéder à ce pouvoir. C'est ainsi qu'ils provoquent des guerres qui conduisent à cette situation des calamités où il faudrait faire appel aux humanitaires. Merci beaucoup Ismaël. Nous restons ici dans la capitale avec Maître Francis. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et la PJ, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez suivi les uns et les autres, on dégage ensemble les pistes de solutions pour faciliter aux humanitaires de faire leur travail. Mais dans beaucoup de propositions, les gens pensent qu'il faut aujourd'hui prévenir, agir plus en amont pour éviter qu'on ait de cas et des situations qui demandent qu'on fasse appel aux humanitaires. Quel est votre point de vue?
Oui, d'entrée du jeu, je me réjouis déjà que la radio Capi puisse soulever un sujet qui a été longtemps considéré comme étant un tabou. D'entrée du jeu aussi, je me réjouis parce que le plus grand cadeau que l'on peut offrir à la population de l'Est, c'est la paix. Et j'aimerais souligner que l'aide humanitaire n'est pas aussi un cadeau, mais c'est plutôt un droit car la vie humaine est protégée. Et étant donné que la RDC a ratifié la Convention de 1951, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dispose que la vie humaine est sacrée. Donc ce n'est pas un droit, ce n'est pas un cadeau, c'est une obligation. Et deuxièmement, j'aimerais soulever un problème de conscience. Nos humanitaires, quand ils vont sur terrain, mais nous constatons une totale adéquation, inadéquation, voulais-je dire, entre ce que les bailleurs des fonds donnent et ce qu'ils font sur terrain. Et pour ne pas tergiverser, parce que mes prédécesseurs ont tout dit, j'aimerais passer directement concrètement aux pistes de solutions. Mm-hmm. Premièrement, le gouvernement doit travailler pour la sécurisation du pays. C'est ça d'ailleurs la toile de fond. Deuxièmement, les humanitaires doivent cesser d'agir sur base des conséquences, qu'ils agissent plutôt sur base des causes. Troisièmement, les humanitaires doivent savoir que quand le bailleur des fonds donne de l'argent, c'est pour assister et non pour en faire des fonds de commerce. Et on doit aussi donner à ces pauvres réfugiés ce qu'ils méritent. Ne pas, par exemple, ne pas donner à la population des cacahuètes pendant qu'ils méritent des viandes. Et quatrièmement, ces humanitaires doivent aussi faire un monitoring au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les retours de la paix. Et il faut aussi, au niveau du Conseil, au niveau de l'ONU, qui est le responsable de ces agences humanitaires, qu'il y ait une politique de contrôle pour comparer ce que l'on donne et ce que la population reçoit. Et en dernière position, je voudrais dire que la grande charge revient enfin à l'État congolais qui doit assurer des aides humanitaires par le biais du ministère des Affaires sociales. Voilà un peu ma contribution pour aujourd'hui. C'était et je vous remercie.
Merci beaucoup, Maître Francis. Vous avez proposé plus ou moins six choses. Vous souhaitez que, d'abord, la charge primaire revienne à l'État congolais qui doit assurer l'aide humanitaire à sa population à travers le ministère des Affaires sociales et aide humanitaire, d'ailleurs, vous l'avez dit. Mais vous avez conseillé les uns et les autres à faire, par exemple, aux ONG qui s'occupent de l'aide humanitaire, de faire le monitoring pour voir comment évoluent les activités au niveau de la paix, mais la politique aussi des contrôles pour savoir comment sont gérés les fonds qui sont alloués et leurs activités sur terrain. Merci beaucoup, Maître Francis. Marcel, vous êtes à Kisangani, en province orientale. Bonjour.
Bonjour, Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Marcel.
Oui, merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Et je voudrais d'abord faire un petit rectificatif par rapport à ce que mes prédécesseurs ont pu soulever s'agissant du droit humanitaire. Et tout en précisant que, comme ils peuvent penser, mais le droit humanitaire, c'est un droit qui intervient justement en temps de conflits armés. Donc, le droit humanitaire, à l'origine, a été créé pour intervenir en temps de conflits armés. Et cela n'est pas lié à la paix ou tout ceci, comme les droits humains, puisque, à la différence des droits humains, les droits humains interviennent tant en temps de paix qu'en temps de conflits armés. Mais le droit humanitaire a l'exclusivité d'intervenir qu'en temps de conflits armés. Et par rapport à l'intervention à l'assistance humanitaire, mais nous devons savoir que la base légale à l'assistance humanitaire, c'est ce sont les quatre conventions de Genève avec les protocoles additionnels. C'est là du 12 août 1949. Cela concerne les conventions et les protocoles additionnels de 1977. Et que disent ces conventions, si ma mémoire est bonne? Je pense que la première convention parle de l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. Et la deuxième convention parle, en fait, de l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer. Et la troisième convention parle, en fait, du traitement des personnes, des prisonniers de guerre. Et la quatrième convention parle de la protection des civils à temps de guerre et ses protocoles additionnels en formation également. Et donc, je crois que c'est dans cette logique qu'on doit comprendre l'assistance humanitaire. Donc, l'assistance humanitaire, comme je l'ai dit au début, intervient justement en cas à temps de guerre. Et cela, c'est pour aussi opposé aux difficultés si invoquées par l'invité qui est au studio, qui a invoqué parmi les difficultés auxquelles font face les humanitaires, entre autres, il a cité le problème de l'insécurité et le problème d'accès. Bon, par rapport à l'insécurité, je ne pense pas, puisque, comme je venais de dire, les droits humanitaires n'intervient qu'en temps de guerre. Donc, on ne peut pas relever comme difficulté l'insécurité, puisque ces conventions ont été ratifiées par tous les États.
Oui, Marcel, il y a deux auditeurs. S'il vous plaît, Marcel.
On ne pouvait pas empêcher aux États de ne pas faire la
guerre. S'il vous plaît, Marcel, il y a deux auditeurs en ligne. Là, on va bientôt terminer cette émission. Malheureusement, pour vous, on ne sera pas appelé plus loin, mais vous avez fait voir aux autres que si on parle de l'intervention humanitaire, c'est bien sûr, parce que ça touche aux conflits armés aussi en partie, mais pas seulement les conflits armés, mais nous avons aussi évoqué le problème des catastrophes naturelles. On a deux derniers auditeurs en ligne, hein, en une minute à chacun. Alex est à Kalemi et Théophile à Kananga. Alex, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, je pense que je vais être trop bref. Je suis en train de féliciter et de remercier les humanitaires dans les efforts qu'ils sont en train de mener sur le terrain, parce que c'est parfois pénible, hein, de travailler dans le terrain, le fin fond de l'intérieur de la République démocratique du Congo. Mais au moins, ils fournissent le maximum d'efforts sans le gouvernement, sans effort des humanitaires. Vraiment, je ne sais pas comment le village de la RDC devrait être. Mm-hmm. Mais au moins, en étant bref, je voudrais dire aux humanitaires d'être vraiment expéditifs, parce que lorsqu'ils font des évaluations, ils trouvent des besoins. Mais quand ils proposent, maintenant, ils sont dans la recherche de fonds, le besoin évolue. À chaque fois qu'ils amènent le projet, pour la réalisation de projet, ils ne trouvent plus encore le besoin. Mm-hmm. Alors voilà pourquoi je suis en train, je suis en train de pousser les humanitaires à faire qu'ils soient expéditifs pour qu'ils rencontrent le besoin de la population à chaque fois que le financement
merci,
arrive.
Merci
parce
beaucoup.
Que quand le financement arrive, c'est quand le besoin est déjà évolué.
Voilà, merci beaucoup Alexis. On termine avec vous Théophile, vous êtes à Kananga. En 45 secondes, rapidement, parce qu'il faut permettre à l'invité de réagir et conclure cette émission. On vous écoute Théophile.
Merci beaucoup. Je parle d'action des humanitaires. Puisque l'intervenant qui est venu avoir d'autres
soucis... Oui, on a des petits soucis avec vous, Théophile. Votre ligne à partir de Kananga pose problème. On ne sait pas vous suivre comme il faut. Nous revenons à vous, Yvon et Doumou, parce qu'on va terminer maintenant cette émission. Les préoccupations sont revenues. Elles sont presque les mêmes. Mais moi, j'ai envie de compléter la question de Maurice de Kinshasa pour savoir si dans le cahier des charges des humanitaires, il y a aussi des interventions pour aider effectivement les États qui sont un problème, et par rapport au problème de l'amélioration de la gouvernance, de la démocratie, qui sont aussi, comme il a dit, à la base des fois des guerres. Voilà un peu, mais les autres préoccupations ont été presque les mêmes qui ont été évoquées depuis le début de cette émission.
Alors, pour répondre de façon spécifique, les instances humanitaires ont un cahier de charge qui est très spécifique, qui est évidemment répondre aux besoins, aux conséquences, aux besoins des populations. Tout ce qui touche à la politique ou la gouvernance est du ressort d'autres agences, d'autres partenaires qui ne sont pas dans l'urgence, qui ne sont pas dans l'humanitaire.
Et par rapport à tout ce qui a été dit et le travail que les humanitaires font en RDC, en deux minutes, qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir de ce travail et de l'avenir?
Alors, effectivement, c'est un travail qui, comme beaucoup de l'on se levait à travers différentes interventions, c'est un travail qui aujourd'hui se fait dans des situations difficiles, qui se fait avec un sérieux afin d'effectivement, comme certains l'ont soulevé, d'apporter l'aide dont les populations ont besoin au moment où ont besoin. Nous devons effectivement, comme M. Alex de Kalemi l'a souligné, il y a quelquefois des petits retards qui peuvent avoir entre le moment où nous identifions les besoins et l'aide qui est apportée, mais ces cas sont quand même assez rares parce que nous avons des stocks de produits, de médicaments, d'eau, de nourriture que nous pouvons déployer très rapidement dans ces zones-là. Je pense qu'aujourd'hui, une des choses aussi qu'il faut retenir, c'est qu'à travers toute l'Est de la RDC, les populations des familles d'accueil jouent un très grand rôle dans la réponse humanitaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la RDC a plus de 2,6 millions de personnes déplacées, mais 80% de ces personnes vivent dans des familles d'accueil, soit dans des familles proches qu'ils connaissent ou au sein de d'amis, des gens qui ne connaissent pas mais qui ont de la volonté, du bon cœur et qui ont décidé d'accepter ces populations-là. La question de la paix qui a été soulevée est, je le dis encore, incontournable. C'est un travail que l'État congolais, les Congolais et la grande famille internationale qui travaille ici en RDC doit y travailler. Je pense que il va sans dire que sans la paix, la situation va continuer d'être encore difficile en RDC.
Merci beaucoup, monsieur Yvon Edoumou, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chargé des communications au bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchia. Merci également aux auditeurs qui ont été très nombreux à intervenir dans cette émission. On vous dit tous merci. Au revoir.
Allô? 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 Mais qui ne répondent pas?
On se retrouve demain, mardi, à la même heure. La RDC a rejoint le samedi du août dernier la journée africaine de la décentralisation qui a été célébrée par les pays de l'Union africaine. Rappelons que la décentralisation vise le transfert de compétences, pouvoirs et responsabilités aux provinces et autres entités territoriales décentralisées. Que pensez-vous de l'évolution du processus de décentralisation en RDC? C'est la question au centre de notre émission demain à 11h03. Heure de Kinshasa. Merci à Berry Franklin Luchaka, Titim Poutou, Paul Badianyama qui nous ont aidés à produire cette émission supervisée par Nicole Ngaka. Vous allez retrouver l'émission sur www.radiocapi.net mais aussi en rediffusion à 20h03 heure de Kinshasa. Au revoir en compagnie de Radio Capi.